Mémorial de Sainte-Hélène de Las Cases, chapitre 5, fragment de la campagne d'Italie, suite. Le maréchal Wurmser quitte le commandement de l'armée d'Allemagne et prend le commandement de l'armée autrichienne en Italie. L'armée d'Italie avait ouvert la campagne au mois d'avril. On était en juin et les armées du Nord, du Rhin et de Sambre-et-Meuse étaient encore inactives. Ces grandes et belles armées de plus de 200 000 hommes faisaient les principales forces de la République, tenaient tranquillement garnison en Hollande, sur Meuse et Rhin et dans l'Alsace. Lorsqu'on apprit l'arrivée des Français sur l'Adige et le blocus de Mantoue, la cour d'Autriche renonça à l'offensive qu'elle avait projetée en Alsace et sur le Bas-Rhin et ordonna au maréchal Wurmser, qui avait été destiné à cette opération, de revenir en toute hâte, diriger les affaires d'Italie et d'y amener 30 000 hommes de ses meilleures troupes qui, joints aux renforts envoyés de toute la monarchie, devaient lui composer une armée de près de 100 000 hommes. L'armée française d'Italie avait rempli sa tâche en détruisant l'armée qui lui était opposée. Si les armées du Nord en eussent fait autant, la grande lutte eût été terminée. Cependant, le bruit des préparatifs de la maison d'Autriche retentissait dans toute l'Italie. Toutes les nouvelles confidentielles des agents diplomatiques, toutes les lettres des ennemis de la France, étaient pleines de détails sur l'immensité des moyens qu'on allait déployer, sur la certitude que l'empereur d'Allemagne, avant la fin d'août, serait maître de Milan et aurait chassé les Français de l'Italie. 2. Situation de l'armée d'Italie. Dès la fin de juin, le général français suivait attentivement tous ses préparatifs et en concevait de vives alarmes. Il faisait sentir au directoire qu'il était impossible que 30 000 Français pussent soutenir seuls l'effort de toute la puissance autrichienne. Il demandait qu'on lui envoyât des renforts des armées du Rhin, ou bien que ces mêmes armées entrassent en campagne sans délai. Il rappelait la promesse positive qu'on lui avait donnée à son départ de Paris, qu'elle commencerait à opérer le 15 avril. Il se plaignait que 2 mois se fussent écoulés sans qu'elles eussent bougé. Wurmser quitta le Rhin avec ses renforts vers le commencement de juin, et vers la fin du même mois, les armées du Rhin et de Sambre-et-Meuse ouvrirent enfin la campagne. Mais alors, leur diversion n'était plus utile à l'armée d'Italie, Wurmser y était déjà arrivé. Le général français réunit toutes ses forces sur l'Adige et sur la Chiesa. Il ne laissa personne dans les légations ni en Toscane, si ce n'est un bataillon de dépôt dans la citadelle de Ferrare et 2 à Livourne. Il affaiblit, autant que possible, les garnisons de Coni, Tortone et Alexandrie. Il rassembla sous sa main tous les moyens disponibles de l'armée. Le siège de Mantoue commençait à donner des malades, et quelques soins que l'on eût portés à mettre le moins de monde possible devant cette place malsaine, nos pertes ne laissaient pas que d'être considérables. Le général en chef ne put réunir en ligne que 30 000 hommes présents sous les armes. C'est avec cette armée qu'il allait avoir à lutter contre la principale armée de la maison d'Autriche. La correspondance des divers pays de l'Italie étant très active dans le Tyrol, où se réunissaient toutes ses forces ennemies, on pouvait s'apercevoir chaque jour de l'influence funeste de ces grands préparatifs sur les esprits. Les partisans des Français tremblaient. Ceux de l'Autriche, au contraire, étaient fiers et menaçants. Mais tous s'étonnaient qu'une puissance comme la France laissât une armée qui avait si bien mérité d'elle sans secours et sans appui. Ces observations pénétraient jusqu'aux soldats même, par leur habituelle communication avec les habitants du pays. À la fin de juillet, le général Sauré avait son quartier général à Salo. Il était chargé de couvrir le débouché de Chiesa, où passe une grande route qui communique de Trente à Brescia. Masséna était à Bussolengo, faisant occuper la Corona et Montebaldo par la brigade Jouvert, et campait avec le reste de sa division sur le plateau de Rivoli. La brigade de Dalmagne était postée à Vérone, la division d'Augereau occupait Porto Lignano et le Bardige, le général Guillaume commandait à Peschiera, où 6 galères, sous les ordres du capitaine de vaisseau l'Allemand, assuraient le lac de Guarda. Enfin, Serrurier, pressé, le siège de Mantoue, qu'il mène commander la cavalerie de l'armée. 3. Plan de campagne de Wurmser. Wurmser voulait passer la Brenta, débouchée par Vicenza et Padoue, sur l'Adige. Par là, il évitait les montagnes. Mais il se trouvait séparé de Mantoue par l'Adige et obligé de le passer de vive force devant l'armée française. Ou bien il pouvait déboucher entre l'Adige et le lac de Guarda, s'emparer de Montebaldo, du plateau de Rivoli, faire venir son artillerie et ses bagages par la chaussée qui suit la rive gauche de l'Adige. Son armée se trouvait avoir franchi les montagnes et l'Adige et n'avoir plus d'obstacles pour arriver jusqu'à Mantoue. Mais son artillerie et sa cavalerie ne pouvaient se joindre à son infanterie qu'après la prise du plateau de Rivoli. Il pouvait donc se trouver attaqué et obligé de livrer une bataille décisive avant d'être joint par son artillerie et sa cavalerie. Cependant, il ne tint pas compte de cet inconvénient et adopta ce dernier parti. Wurmser, instruit de la prise du camp retranché de Mantoue et des dangers de la place, précipita son mouvement de 8 à 10 jours. Il divisa son armée en 3 corps. Le premier et le plus considérable, formant le centre, déboucha par Montebaldo et s'empara de tout le pays entre l'Adige et le lac de Guarda. Il était composé de 4 divisions formant 40 000 hommes. Le second, formant sa gauche, composé d'une division d'infanterie de 10 à 12 000 hommes avec toute l'artillerie, la cavalerie et les bagages, suivit la chaussée qui, de Roveredo, conduit à Vérone le long de la rive gauche de l'Adige et devait se réunir à l'armée en passant l'Adige, soit au plateau de Rivoli, soit sur les ponts à Vérone. Le troisième, formant sa droite, fort de 3 divisions, composant 30 à 35 000 hommes, se dirigea sur la rive gauche du lac de Guarda, suivit le débouché de la Chiesa en côtoyant le lac d'Hydro. Par cette marche, ce corps avait tourné le Mincio, coupait une des grandes routes de l'armée française à Milan et tournait tout le siège de Mantoue. Ce plan était, de la part de l'ennemi, le résultat d'une extrême confiance dans ses forces et dans ses succès. Il comptait tellement sur notre défaite qu'il s'occupait déjà de nous couper toute retraite. Ainsi, Wurmser, en perspective, cernait davantage l'armée française. La croyant enchaînée à la nécessité de défendre le siège de Mantoue, il pensait que cerner ce point fixe, c'était cerner l'armée française qu'il en regardait comme inséparable. 4. Wurmser débouche par Montebaldo, par la chaussée de Roveredo à Vérone et par celle de la Chiesa, 29 juillet. À la fin de juillet, le quartier général de l'armée française fut transporté à Brescia. Le 28, à 10 heures du soir, le général français partit de Brescia pour visiter ses avant-postes. Arrivé le 29, à la pointe du jour à Peschiera, il y apprit que la Corona et Montebaldo étaient attaqués par des forces considérables. Il arriva à 8 heures du matin à Vérone. À 2 heures après-midi, les troupes légères de l'ennemi se montrèrent sur le sommet des montagnes qui séparent Vérone du Tyrol et s'engagèrent avec nos troupes. Le général en chef rétrograda toute la soirée et porta le quartier général à Castelnuovo entre l'Adige et le Mincio. Il était là plus à portée de recevoir les rapports de toute la ligne. Dans le courant de la nuit, il apprit que Joubert, attaqué à la Corona par toute une armée, avait résisté tout le jour, mais qu'il venait de se replier sur le plateau de Rivoli, que Masséna occupait en grande force, que des lignes nombreuses de feu couvraient toutes les montagnes entre le lac de Guarda et l'Adige, que sur les hauteurs de Vérone, les feux indiquaient qu'à la fin du jour, les troupes ennemies s'y étaient augmentées, que du côté de Montebello, Vicenza, Bassano, Legnano, il n'y avait ni mouvement ni ennemi, mais que du côté de Brescia, 3 divisions ennemies avaient débouché dans la vallée de la Chiesa. Une couvrait les hauteurs de Sanoceto, semblant se diriger sur Brescia, l'autre avait pris position à Gavardo et paraissait se porter sur Ponte San Marco et Lonato. La troisième avait pris sur Salo, où l'on se battait déjà. Un peu plus tard, il fut instruit que la division ennemie de San Oseto avait déjà envoyé son avant-garde à Brescia, où elle n'avait trouvé aucune résistance puisqu'on n'y avait laissé que 300 convalescents pour la garde des hôpitaux. Ainsi, la communication de l'armée avec Milan, par Brescia, se trouvant interceptée, on ne pouvait plus correspondre avec cette ville que par Crémone. Des coureurs ennemis se faisaient déjà voir sur toutes les voies qui de Brescia vont sur Milan, Crémone et Mantoue, annonçant partout qu'une armée de 80 000 hommes avait débouché par Brescia en même temps qu'une autre de 100 000 débouchait par Vérone. Il apprit aussi que la division ennemie dirigée sur Salo en était venue aux mains avec Sauré et que celui-ci, ayant eu connaissance des deux autres divisions qui se portaient sur Brescia et sur Lonato, avait craint de se trouver coupé et de Brescia et de l'armée et avait jugé à propos de se replier sur les hauteurs de Zenzano afin de conserver ses communications. Qu'il avait laissé le général Gieux à Salo avec 1500 hommes dans un antique château, espèce de forteresse à l'abri d'un coup de main. Que la division ennemie de Gavardo avait envoyé quelques coureurs sur Ponte San Marco, mais qu'ils avaient été contenus par une compagnie de chasseurs qui s'y trouvait. 5. Grande et prompte résolution que prend le général français. Combat de Salo, combat de Lonato, 31 juillet. Dès ce moment, le plan d'attaque de Wurmser se trouvait dévoilé. Seul contre toutes ses forces, l'armée française ne pouvait rien. On n'était même pas 1 contre 3, mais seul contre chacun des corps ennemis, il y avait égalité. Le général français prit son parti sur le champ. L'ennemi avait pris l'initiative qu'il espérait conserver. Le général français résolut de déconcerter ses projets en prenant lui-même cette initiative. Wurmser supposait l'armée française fixée à la position de Mantoue. Napoléon décida aussitôt de la rendre mobile en levant le siège de cette place, sacrifiant son équipage de siège et se portant rapidement avec toutes les forces réunies de l'armée sur un des corps de l'armée ennemie pour revenir successivement contre les autres corps. La droite de l'armée autrichienne, qui avait débouché par la chaussée de la Chiesa et Brescia étant la plus engagée, il marcha d'abord sur elle. Sécurier brûla ses affûts et ses plateformes, jeta ses poudres à l'eau, enterra ses projectiles, encloua ses pièces et leva le siège de Mantoue dans la nuit du 31 juillet au 1er août. Augereau se porta sur Legnano et sur le Mincio à Borghetto. Masséna défendit toute la journée du 30 les hauteurs entre la Dige et le lac de Guarda. D'Allemagne se dirigea sur Lonato. Le général en chef se rendit sur les hauteurs en arrière de Dezenzano. Il fit remarcher Sauré sur Salo pour dégager le général Guilleux qui se trouvait compromis dans la mauvaise position où il l'avait laissé. Cependant, ce général s'était battu 48 heures contre toute une division ennemie. 5 fois, on lui avait livré l'assaut et 5 fois, il avait couvert les avenues de cadavres. Sauré arriva au moment même où l'ennemi tentait un dernier effort. Il tomba sur ses flancs, le défit entièrement, lui prit ses drapeaux et dégagea Guilleux. Dans le même moment, la division autrichienne de Gavardo s'était portée sur Lonato pour prendre position sur les hauteurs et tâcher d'opérer sa jonction avec Wurmser sur le Mincio. Le général en chef mena lui-même la brigade de Dallemagne contre cette division. Cette brigade fit des prodiges de valeur. La 32e en faisait partie. L'ennemi fut battu, mis en déroute et éprouva une grande perte. Ces deux divisions ennemies, battues par Sauré et d'Allemagne, se rallièrent à Gavardo. Sauré craignit de se compromettre et revint prendre une position intermédiaire entre Salo et Dezenzano. Pendant ce temps, Wurmser avait fait passer sur les ponts de Vérone son artillerie et sa cavalerie. Maître de tout le pays entre l'Adige et le lac de Guarda, il plaçait une de ses divisions sur les hauteurs de Peschiera pour masquer cette place et garder ses communications. Il en dirigeait 2 autres, avec une partie de sa cavalerie, sur Borghetto, pour s'emparer du pont sur le Mincio et déboucher sur la Chiesa, afin de se mettre en communication avec sa droite. Enfin, avec ses 2 dernières divisions d'infanterie et le reste de la cavalerie, il marchait sur Mantoue pour faire lever le siège de cette place. Depuis 24 heures, les troupes françaises avaient tout évacué de devant Mantoue. Wurmser y trouva les tranchées et les batteries encore entières, les pièces renversées et enclouées, et partout des débris d'affûts, de plateformes et de munitions de toute espèce. La précipitation qui semblait avoir présidé à ces mesures dut le réjouir agréablement. Tout ce qu'il voyait autour de lui semblait bien plus le résultat de l'épouvante que les suites d'un plan calculé. Masséna, après avoir contenu l'ennemi toute la journée du 30, passa dans la nuit le Mincio à Peschiera et continua sur Brescia. La division autrichienne qui se présenta devant Peschiera trouva la rive droite du Mincio garnie de tirailleurs fournis par la garnison et par une arrière-garde laissée par Masséna, laquelle avait ordre de disputer le passage du Mincio et, lorsqu'il serait forcé, de se concentrer sur l'Onato. En se dirigeant sur Brescia, Augereau avait passé le Mincio à Borghetto. Il avait coupé le pont et laissé aussi une arrière-garde pour border la rivière, avec ordre de se concentrer à Castiglione lorsqu'elle serait forcée. Toute la nuit du 31 juillet au 1er août, le général en chef marcha avec les divisions Augereau et Masséna sur Brescia, où l'on arriva à 10 heures du matin. La division ennemie de Brescia, instruite que toute l'armée française débouchait sur elle par toutes les routes, n'eut garde d'attendre et se retira en toute hâte. Les Autrichiens, en entrant dans Brescia, y avaient trouvé tous nos malades et nos convalescents, mais ils y restèrent si peu et furent contraints d'en sortir si précipitamment qu'ils n'eurent pas le temps de reconnaître leurs prisonniers ni d'en disposer. Le général Despinois et l'adjudant général Herbin, avec chacun quelques bataillons, furent mis à la poursuite des ennemis sur Saint-Osseto et les débouchés de la Chiesa. Les deux divisions, Augereau et Masséna, retournèrent par une contre-marche rapide du côté de Mincio, d'où elles étaient parties, pour soutenir leurs arrière-gardes. 6. Bataille de l'Onato, 3 août. Le 2 août, Augereau, formant la droite, occupait Montechiaro. Masséna formant le centre était campé à Ponte Marco, se liant avec Soré qui, formant la gauche, occupait une hauteur entre Salò et Desenzano, faisant face en arrière pour contenir toute la droite de l'ennemi. Cependant, les arrière-gardes qu'Augereau et Masséna avaient laissés sur le Mincio s'étaient retirés devant les divisions ennemies qui avaient passé cette rivière. Celle d'Augereau, qui avait ordre de se réunir à Castiglione, quitta ce poste avant le temps et revint en désordre rejoindre son corps. Napoléon, mécontent du général Valette qui la commandait, le destitua devant les troupes pour n'avoir pas montré plus de fermeté dans cette occasion. Quant au général Pigeon, chargé de l'arrière-garde de Masséna, il vint en bon ordre sur l'Onato qui lui avait été indiqué et s'y établit. L'ennemi, profitant de la faute du général Valette, s'empara de Castiglione le 2 même et s'y retrancha. Le 3 eut lieu la bataille de l'Onato. Elle fut donnée par les deux divisions de Wurmser, venues de Borghetto, et par une des brigades de la division de Murray sur Peschiera, ce qui, avec la cavalerie, pouvait composer 30 000 hommes. Les Français en avaient 20 à 23 000, aussi le succès ne fut pas douteux. Wurmser, avec ses deux divisions d'infanterie et la cavalerie qu'il avait conduite à Mantoue, ne put s'y trouver. À l'aube du jour, l'ennemi se porta sur l'Onato qu'il attaqua vivement. C'est par là qu'il prétendait faire sa jonction avec sa droite, sur laquelle, du reste, il commençait à concevoir des inquiétudes. L'avant-garde de Masséna fut culbutée, l'ennemi prit l'Onato. Le général en chef, qui était à Ponte Marco, marcha lui-même pour reprendre l'Onato. Le général autrichien, s'étant trop étendu, toujours dans l'intention de gagner sur sa droite afin d'ouvrir ses communications avec Salò, fut enfoncé. L'Onato reprit au pas de charge et la ligne ennemie coupée. Une partie se replia sur le Mincio, l'autre se jeta sur Salò, mais elle rencontra le général Soré en front et avait le général Saint-Hilaire en queue. Tournée de tous les côtés, elle fut obligée de mettre bas les armes. Si nous fûmes attaqués au centre, ce fut nous qui attaquâmes à la droite. Au jour, Augereau aborda l'ennemi qui couvrait Castiglione et l'enfonça après un combat opiniâtre où la valeur des troupes suppléa au nombre. L'ennemi éprouva beaucoup de mal, perdit Castiglione et se retira sur Mantoue, d'où lui arrivèrent les premiers renforts, mais seulement quand la journée était déjà finie. Nous perdîmes beaucoup de braves dans cette affaire opiniâtre. L'armée regretta particulièrement le général Béran et le colonel Pouraille, officiers très distingués. 7. Reddition des trois divisions de droite de l'ennemi et d'une partie de son centre. Les trois divisions de droite de l'armée ennemie eurent nouvelle dans la nuit de la bataille de l'Onato. Elles en entendaient le canon. Leur découragement devint extrême. Leur jonction avec le corps principal de l'armée devenait impossible. Elles avaient vu d'ailleurs sur elles plusieurs divisions françaises. Elles les croyaient toujours manœuvrant contre elles. L'armée française leur semblait innombrable. Elles la voyaient partout. Wurmser avait, de Mantoue, dirigé une partie de ses troupes vers Marcaria pour poursuivre Serrurier. Il lui fallut perdre du temps pour faire revenir ses troupes sur Castiglione. Le 4, il ne se trouvait pas en mesure. Il employa toute la journée à rassembler ses corps, à réorganiser ce qui avait combattu à Lonato et à réapprovisionner son artillerie. Quand le général français, sur les 2 ou 3 heures de l'après-midi, vint observer sa ligne de bataille, il la trouva formidable. Elle présentait encore 40 000 combattants. Il ordonna qu'on se retranchât à Castiglione et partit lui-même pour Lonato, afin de veiller en personne au mouvement de ses troupes qu'il devinait de la plus haute importance de rassembler dans la nuit autour de Castiglione. Toute la nuit, Sauré et Herbin d'un côté, d'Allemagne et Saint-Hilaire de l'autre, avaient marché à la suite des 3 divisions ennemies de la droite et de celles coupées du centre à la journée de Lonato, les avaient poursuivis sans relâche, faisant des prisonniers à chaque pas. Des bataillons entiers avaient posé les armes à Sant'Oceto, d'autres à Gavardo, d'autres enfin erraient incertains dans les vallées voisines. 4 ou 5 000 de ceux-ci sont instruits par des paysans qu'il n'y avait que 1 200 Français dans Lonato. Ils y marchent dans l'espoir de s'ouvrir un chemin vers le Mincio. Il était 4 heures de l'après-midi. Napoléon y entrait de son côté venant de Castiglione. On lui annonce un parlementaire. Il apprend en même temps qu'on prend les armes, que des colonnes ennemies débouchent par Ponte San Marco, qu'elles veulent entrer dans Lonato et font sommer cette ville de se rendre. Cependant, nous étions toujours maîtres de Salo et de Gavardo. Dès lors, il devenait évident que ce ne pouvait être que des colonnes perdues qui cherchaient à se frayer un passage. Napoléon fait monter à cheval son nombreux état-major, il se fait amener l'officier parlementaire et lui fait débander les yeux au milieu de tout le mouvement d'un grand quartier général. « Allez dire à votre général, lui dit-il, que je lui donne 8 minutes pour poser les armes. Il se trouve au milieu de l'armée française. Passé ce temps, il n'aurait rien à espérer. » Harassé depuis 3 jours, errant, incertain, ne sachant plus que devenir, persuadé qu'ils avaient été trompés par les paysans, ces 4 ou 5 000 hommes posèrent les armes. Ce seul trait peut donner une idée du désordre et de la confusion de ces divisions autrichiennes qui, battues à Salo, à Lonato, à Gavardo, poursuivies dans toutes les directions, étaient désormais à peu près fondues. Tout le reste du 4 et la nuit entière se passèrent à rallier la totalité des colonnes et à les concentrer sur Castiglione. 8. Bataille de Castiglione, le 5 août. Le 5 avant le jour, l'armée française toute réunie, forte de 25 000 hommes, y compris la division Serrurier, occupa les hauteurs de Castiglione, excellente position. Le général Serrurier, avec la division du siège de Mantoue, avait reçu l'ordre de marcher toute la nuit et de tomber au jour sur les derrières de la gauche de Wurmser. Son attaque devait être le signal de la bataille. On attendait un grand succès moral de cette attaque inopinée, et pour la rendre plus sensible, l'armée française feignit de reculer. Aussitôt qu'on entendit les premiers coups du corps de Serrurier, qui, étant malade, avait été remplacé par le général Fiorella, on marcha vivement à l'ennemi et l'on tomba sur des gens déjà ébranlés dans leur confiance et n'ayant plus leur première ardeur. Un mamelon, au milieu de la plaine, formait un fort appui pour la gauche ennemie. L'adjudant général Verdier fut chargé de l'attaquer. L'aide de camp du général en chef, Marmont, s'y dirigea avec 20 pièces d'artillerie. Le poste fut enlevé. Masséna attaqua la droite, Augereau le centre, Fiorella prit la gauche à revers. Partout, on fut victorieux, l'ennemi fut mis dans une déroute complète. L'excessive fatigue des troupes françaises put seule sauver les débris de Wurmser. Ils furent en désordre au-delà de Mincio, où Wurmser espérait se maintenir. Il y eut trouvé l'avantage de rester en communication avec Mantoue. Mais la division Augereau se dirigea sur Borghetto, celle de Masséna sur Peschiara. Le général Guillaume, commandant de cette dernière place, qui y avait été laissé avec 400 hommes seulement, en avait muré les portes pour s'y mieux défendre. Il eut fallu 48 heures pour les désencombrer. Les soldats durent sauter par-dessus les remparts pour aller à l'ennemi. Les troupes autrichiennes qui bloquaient Peschiara étaient fraîches. Elles soutinrent longtemps le combat contre le 18e de ligne. Elles furent enfin enfoncées, perdirent 18 pièces de canon et beaucoup de prisonniers. Le général en chef marcha avec la division serrurier sur Vérone. Il y arriva le 7 dans la nuit. Wurmser en avait fait fermer les portes, voulant gagner la nuit pour faire filer ses bagages. Mais on les enfonça à coups de canon et on pénétra dans la ville. Les Autrichiens y perdirent beaucoup de monde. La division Rougereau, éprouvant des difficultés à opérer son passage à Borghetto, revint passer à Peschiera. Perdant l'espérance de conserver la ligne du Mincio, Wurmser essaya de conserver les positions importantes de Montebaldo et de la Rocca d'Anfo. Le général Saint-Hilaire marcha sur la Rocca d'Anfo, attaqua l'ennemi dans la vallée de Loudon et lui fit beaucoup de prisonniers. On s'empara de Riva et Wurmser fut obligé de brûler sa flottille. Masséna marcha sur le Montebaldo et prit la Corona. Augereau remonta à la rive gauche de la Dige et, suivant les crêtes des montagnes, il arriva jusqu'à la hauteur d'Ala. L'ennemi éprouva des pertes considérables dans les tentatives dont il accompagna sa retraite. Ses troupes n'avaient plus le moral. Après la perte de deux batailles comme celle de Lonato et de Castiglione, Wurmser aurait dû comprendre qu'il ne pouvait plus disputer ce qu'il convenait aux Français d'occuper pour s'assurer de la ligne de l'Adige. Il se retira à Roveredo et à Trente. L'armée française avait aussi elle-même besoin de repos. Les forces de Wurmser, après ses défaites, étaient encore égales aux nôtres. Mais avec cette différence que désormais un bataillon de l'armée d'Italie en mettait quatre des ennemis en fuite et que partout on ramassait du canon, des prisonniers et des objets militaires. Wurmser avait ravitaillé la garnison de Mantoue, il est vrai, mais il ne ramenait pas en ce moment de toute sa belle armée, y compris sa cavalerie, plus de 40 à 45 000 hommes. Du reste, rien ne saurait être comparable au découragement et à la démoralisation de cette belle armée après ses revers, si ce n'est l'extrême confiance dont elle était animée au commencement de la campagne. Le plan de Wurmser, qui pouvait réussir dans d'autres circonstances, ou contre un autre homme que son adversaire, devait pourtant avoir l'issue funeste qu'il a eue. Et bien qu'au premier coup d'œil la défaite de cette grande et belle armée en si peu de jours semble ne devoir être attribué qu'à l'habileté du général français qui improvisa sans cesse ses manœuvres contre un plan général arrêté à l'avance, il faut convenir que ce plan reposait sur de bases fausses. C'est une faute que de faire agir séparément des corps qui n'avaient entre eux aucune communication vis-à-vis d'une armée centralisée dont les communications étaient faciles. La droite ne pouvait communiquer avec le centre que par Roveredo et Lodron. Ce fut une seconde faute encore que de subdiviser le corps de la droite et de donner des buts différents à ces différentes divisions. Celle qui fut à Brescia ne trouva personne contre elle, et celle qui atteignit Lonato eut affaire aux troupes qui la veille encore étaient à Vérone devant la gauche autrichienne, laquelle, dans ce moment, n'avait plus rien devant elle. L'armée autrichienne comptait de très bonnes troupes, mais elle en avait aussi de médiocres. Tout ce qui était venu du Rhin avec Wurmser était excellent et animé de l'espoir de la victoire. Mais tous les cadres de l'ancienne armée de Beaulieu, battus dans tant de circonstances, traînaient avec eux le découragement. Une des dispositions de Wurmser que les circonstances rendirent des plus funestes, c'est que la plus grande partie de sa droite se trouva composée de Hongrois, troupes lourdes qui, une fois déroutées, ne surent plus comment se tirer de ces montagnes et qui, à cause de leur langage, ne purent se faire entendre. 9. Second siège de Mantoue. Les premiers jours de la levée du blocus de Mantoue furent employés par la garnison à défaire les ouvrages des assiégeants, à faire entrer les pièces et les munitions qu'ils trouvèrent. Mais les prompts revers de Wurmser ramenèrent bientôt les Français devant la place. La perte de l'équipage d'artillerie ne laissait plus d'espérance de pouvoir en faire le siège. Cet équipage, formé à grand-peine de pièces recueillies dans les différentes places de l'Italie, était presque entièrement perdu. D'ailleurs, la saison devenait trop mauvaise. L'ouverture et le service de la tranchée eussent été trop dangereux pour les troupes au moment où la malignité du climat allait exercer ses ravages. Le général français, n'ayant donc pas sous la main un équipage de siège qui pût lui donner l'assurance de prendre Mantoue avant 6 semaines, ne voulut pas songer à en former un second qui n'eût été prêt qu'au moment même où de nouveaux événements pouvaient l'exposer à le perdre de nouveau en le forçant de lever le siège une nouvelle fois. Il se contenta donc d'un simple blocus. Le général Sahugué en fut chargé, il attaqua Governolo et le général d'Allemagne Borgoforte. Ils s'en emparèrent, ainsi que de tout le Serraglio, rejetèrent l'ennemi dans la place et en resserrèrent étroitement le blocus. On s'occupa de multiplier les redoutes et les fortifications autour de la ville afin d'y employer le moins de monde possible, car tous les jours les assiégeants diminuaient par le ravage de la fièvre et l'on prévoyait avec effroi que ce ravage ne ferait qu'accroître avec l'automne. Il est vrai que la garnison était soumise aux mêmes maux et à la même diminution. 10. Conduite des différents peuples d'Italie durant cette crise. Cependant, la position de l'Italie, dans le peu de jours qui venaient de s'écouler, avait été une véritable révélation. Toutes les passions s'étaient montrées au grand jour, chacun se démasqua. Le parti ennemi se montra à Crémone, à Casalmaggiore, et quelques étincelles se laissèrent voir à Pavie. En général, la Lombardie montra un bon esprit. À Milan surtout, presque tout le peuple témoigna une grande constance et beaucoup de fortitude. Ils gagnèrent notre confiance et méritèrent les armes qu'ils ne cessaient de demander avec instance. Aussi le général français leur écrivait-il dans sa satisfaction, lorsque l'armée battait en retraite, que les partisans de l'Autriche et les ennemis de la liberté la croyaient perdue sans ressources, lorsqu'il était impossible à vous-même de soupçonner que cette retraite n'était qu'une ruse, vous avez montré de l'attachement pour la France, de l'amour pour la liberté. Vous avez déployé un zèle et un caractère qui vous ont mérité l'estime de l'armée et vous mériteront la protection de la République française. Chaque jour, votre peuple se rend davantage digne de la liberté. Il acquiert chaque jour de l'énergie. Il paraîtra sans doute un jour avec gloire sur la scène du monde. Recevez le témoignage de ma satisfaction et du vœu sincère que fait le peuple français pour vous voir libre et heureux. Les peuples de Bologne, Ferrare et Reggio Modane montrèrent un véritable intérêt pour notre cause. Parme demeura fidèle à son armistice, mais la régence de Modène se montra ouvertement notre ennemi. À Rome, des Français furent insultés dans les rues. On y proclama leur expulsion de l'Italie. On suspendit l'accomplissement des conditions de l'armistice non encore remplies. Le général en chef eût pu punir une pareille conduite, mais d'autres pensées le portaient ailleurs et l'obligeaient d'ajourner le châtiment si les négociations n'amenaient le repentir. Le cardinal Mattei, archevêque de Ferrare, témoigna sa joie à la nouvelle de la levée du siège de Mantoue. Il appela les peuples à l'insurrection contre les Français. Il prit possession de la citadelle de Ferrare et y abhorra les couleurs du pape. Le pape y envoya aussitôt un légat et par là viola l'armistice. Après la bataille de Castiglione, le général français fit arrêter Mattei et le fit conduire à Brescia. Le cardinal, interdit, ne répondit que par ce seul mot « peccavi », ce qui désarma Napoléon, qui se contenta de le mettre 3 mois dans un séminaire à Brescia. Depuis, ce cardinal a été plénipotentiaire du pape à Tolentino. Le cardinal Mattei était d'une famille princière de Rome. C'était un homme borné, de peu de talent, mais qui passait pour être d'une dévotion sincère. Il était minutieusement attaché aux pratiques du culte. Après la mort du pape Pie VI, la cour de Vienne s'agita beaucoup au conclave de Venise pour le faire nommer pape, mais elle ne réussit point. Chiaramonti, évêque d'Imola, l'emporta et prit le nom de Pie VII. Nota bene de l'éditeur, écrit sous dictée, le rapport ne donne que 20 000 hommes amenés du Rhin par Wurmser. Le chapitre dit 30 et celui-ci a raison. L'inégalité des forces a toujours été telle entre les deux armées que le général français, dans ses rapports, croyait être souvent obligé de diminuer les forces de l'ennemi pour ne pas décourager sa propre armée. C'est ce qui explique la différence des nombres qu'on rencontre parfois entre l'ouvrage et les pièces officielles.